Bonsoir, merci beaucoup à Entrevue.
Oui, merci de nous accueillir.
Alors, on n'a pas vraiment prévu de fil rouge, donc on va se laisser porter par le fun,
Voilà.
justement, pour présenter. Alors, sur la question de l'équipe, on est
En
un
collectif.
demi-corps ce soir, puisque
Oui, nous sommes quatre.
nous sommes quatre. Il y a donc Florian Bardou, il y a Selima Atala. Il y a Zora Mrad, j'ai du mal à dire son nom, Mrad, et moi-même Dorsen, et nous constituons donc les quatre têtes de ce monstre qu'est la revue Fun.
Trois poètes et poétesses, une directrice artistique qui est vidéaste par ailleurs et designer et qui s'occupe de la maquette, évidemment, et on y reviendra lors de nos événements et nos lectures performées, de tout ce qui est vidging, c'est-à-dire projection vidéo en live pour accompagner tout ça.
Ouais, Zora s'occupe de tout ce qui est nos yeux et fait un travail sur la maquette qui est absolument incroyable, que vous pouvez découvrir dans les deux premiers numéros, bientôt trois. Quant à Fun, comment est né le Fun?
Moi, je me souviens, on en discutait en fait tous les deux de manière un peu amusée. En fait, je crois que c'est né d'une discussion sur Instagram en privé
Oui.
avec une envie, en fait, je sais plus comment de faire de la poésie à partir d'un bestiaire animal et avec une réflexion évoluant au gré de petites blagues comme ça sur bah, l'envie d'y donner une dimension à la fois évidemment poétique puisqu'on est poète, mais une dimension peut-être aussi plus politique. Je crois lié aussi à nos engagements, en tout cas.
Oui, de révéler le politique dans le poétique et de pas simplement faire un objet qui soit une réflexion littéraire dans la tour d'ivoire, enfin la réflexion habituelle, mais d'essayer de mettre en avant toute, justement, comme dit Florian, cette réflexion ou cet engagement politique qui peut être le nôtre à divers endroits, à divers degrés.
Puis ça a sommeillé un petit peu, et
Ouais.
puis nous ont rejoint,
On a hiberné pendant un an.
non, quelques mois,
Quelques
disons,
mois.
quelques mois. Et puis l'année dernière, un peu, il y a pile un an, un peu plus peut-être, en début d'année, du fait aussi de ton appartenance à un ancien collectif qui organisait des soirées de poétique, en tout cas de lecture poétique sur DJ set. Vous avez décidé enfin, Selima et Zola nous ont rejoints et on a eu vraiment l'envie de lancer ça. Et la revue est née, voilà, au printemps, le temps de commander les premiers textes, de définir vraiment l'objet qu'on voulait, en tout cas d'un point de vue à la fois éditorial, en termes de charte graphique, en termes de projet culturel, on va dire, plus
On a été
global.
très vite quand même, hein. On a été très vite dans la décision et dans le dessin de l'objet, même conceptuellement de ce qu'on voulait faire. Ce qui me semble intéressant avec cette revue, parce que moi, faire une revue, c'est vrai que c'était pas un projet dans mon
Moi
travail
non plus.
d'écriture ou d'organisation, parce que c'est quand même très pénible de faire une revue, d'organiser une revue, de recevoir des textes, de s'inquiéter de l'impression, etc. C'est un travail à part entière, quoi.
De donner un sens en fait
De
aussi.
donner un sens, exactement. C'est une grosse
Enfin,
somme de travail.
c'est du
Et
travail.
personnellement, on travaille tous à côté. Et donc, en plus d'un travail d'écriture, se lancer dans une revue, enfin, c'était pas du tout dans mes plans. Et en fait, c'est arrivé d'une manière quand même très, très spontanée. Dans la mesure aussi où on a pensé cet objet. Donc Fun comme un objet double, à la fois une revue papier qui serait vraiment cette caisse de résonance de nos réflexions sur lesquelles on reviendra peut-être un peu plus tard, et puis également un volet événement, c'est-à-dire qu'on couple toujours la sortie d'une revue avec un gros événement, on invite pas mal de gens, on fait justement un DJ set, il y a de la musique, il y a de la vidéo, il y a plein de choses, et par conséquent cette revue-là, elle est toujours continuée. Dans le monde physique, pas seulement dans le monde des idées, par une fête, en fait, tout simplement, quoi, par quelque chose.
Oui, j'utilisais un gros mot qui est souvent utilisé, c'est l'idée de pluridisciplinarité, de faire un peu, d'avoir un prolongement, en tout cas esthétique, au-delà de l'écriture par l'illustration déjà dans la revue. Ça pourrait être de la photographie éventuellement, et puis avoir une continuation événementielle avec l'oralité en fait de la poésie, et puis amener une exposition autour du thème, amener éventuellement une réflexion à la fois peut-être scientifique et militante par une conférence, en tout cas créer quelque chose de finalement vivant. Et je me suis perdu, mais
non, si c'est bien.
Mais voilà comment. Et puis le premier. Et l'idée, c'était quand même aussi de faire un petit objet,
oui.
Pour la revue,
accessible,
pas trop cher, avec 5 ou 6 contributions d'auteurs et d'autrices qu'on va nous-mêmes chercher,
plus des illustratrices voilà. Derrière voilà. Qui viennent renforcer les rangs et qui viennent faire un objet complet, quoi.
Et essayer d'amener aussi ces poètes et poétesses, ou pas que, écrivants, à finalement aussi fournir et participer à ce sillon de l'éco-poésie, mais qu'on y reviendra, qui est déjà ancien, etc. En tout cas, participer à son
souffle,
sa profusion, voilà.
Un souffle, et justement, je crois que c'est quand on a un peu abordé cette question du nom, on a beaucoup cherché, il y a eu des noms heureux et des noms moins heureux qu'on a proposés, enfin, quand même, à chaque fois qu'on recherche des noms pour un projet, j'imagine. On est arrivé à Fun. Ce qui nous plaisait dans le Fun, c'est que c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est ce vent dans certaines montagnes, particulièrement les Pyrénées
et les Alpes.
Dont Florian est originaire et qui dont on raconte qu'il rend fou et que commettre un meurtre un jour de fun est une circonstance atténuante, ce qui n'est absolument pas vrai. Donc n'allez pas commettre des meurtres en pensant vous en réchapper, ça n'arrivera pas. Ah oui, c'est exactement ce que dirait un meurtrier.
Oui, personnellement j'ai un rapport assez affectif et intime au mot, dans le sens où c'est un mot qui est scientifique, qui peut être compliqué, ouais. Qui est peu connu,
qui est étrange,
mais en
quoi.
Fait moi je l'ai toujours entendu puisqu'en fait j'ai la chance de pouvoir aller très très souvent dans les Pyrénées venant du sud, et ma grand-mère utilisait souvent ce mot en disant il y a eu un effet de fun, etc. Et donc sans savoir au début quand j'étais jeune ce que ça voulait éventuellement dire, et avec un attachement parce que c'est un mot très mystérieux qui a une prononciation très particulière, donc
avec une homophonie, voilà. Avec faune, avec des
très,
beaucoup de mots derrière,
très joli mot qui en plus dans un contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire quelle ampleur du faune dans un contexte de changement, de crise climatique, faisait qu'on avait on a opté pour ce nom-là,
ouais, pour choisir notre folie, aller vers notre propre folie. Et voilà, en plus on a appris quelques mois plus tard que ça voulait dire sèche-cheveux en Suisse et au Luxembourg, je crois, si je ne m'abuse. Alors, et moi j'adore que justement cet aspect mystérieux, le fun, et qui en fait c'est un sèche-cheveux pour la moitié de l'Europe, et c'est une dimension qui me plaît beaucoup, quoi. Un truc très quotidien, mais toujours dans le souffle, voilà, c'était une belle idée.
Et donc, très vite, se poser la question du premier numéro, du thème du premier numéro, et aussi l'envie de ne pas s'arrêter à la question animale, mais de le prolonger à toute la sphère du vivant. Donc, à chaque fois, est-ce qu'on prend un animal, un objet, enfin, un végétal, etc. Et donc, on a choisi à l'unanimité le poulpe pour le premier numéro, un peu comme ça aussi, par envie de se faire plaisir, il y a pas de réflexion aboutie, mais plus, enfin, se dire aussi que c'est un animal très intéressant.
Alors moi, j'ai peut-être caché mes cartes à l'époque, peut-être. Par stratégie, mais le poulpe est quand même très très emblématique pour moi dans ce projet-là, dans la mesure où, justement, pour revenir à cette question de l'éco-poésie, alors l'éco-poésie, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est rien du tout, ça veut pas dire grand-chose, en tout cas pour le moment. C'est une excroissance contemporaine de la notion de nature writing, pardon pour l'accent, qui existe depuis le 19e siècle, qui est partie des États-Unis et puis qui a été adoptée en Europe par plusieurs personnes qui écrivaient et qui théorisaient l'écriture. Et l'éco-poésie, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, ça vient de l'éco-poétique, donc c'est-à-dire la création de l'oikos, de la maison, donc la création littéraire en lien avec les réflexions écologiques. C'est ça, l'éco-poésie. Bon, après, il y a plein de définitions et de tiroirs, évidemment, on passera là-dessus. Et l'éco-poésie, ce serait une application de ce questionnement-là dans le champ particulier de la poésie. Or, cette éco-poétique et éco-poésie, elle s'enflamme complètement dans la seconde moitié du XXe siècle. Et en fait, je me rappelle qu'il y a quelques années, par intermédiaire d'une amie qui m'envoie ça, qui m'envoie un texte et qui me dit « Est-ce que tu connais Ursula Le Guin ?» Je ne connaissais pas du tout, autrice américaine qui était morte quelques années auparavant. Voilà, qui était absolument inconnu en France, qui d'ailleurs s'est fait redécouvrir depuis, notamment par le travail de David Meulemans, des éditions Des Forges. Les Forges de Vulcain, exactement, merci beaucoup. Qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur Ursula Le Guin, qui en a beaucoup parlé. Et Ursula Le Guin, elle écrit énormément de choses, énormément de science-fiction passionnante, et elle écrit une toute petite nouvelle de 6 pages. Qui s'appelle About Acacia Ants, c'est-à-dire à propos des fourmis de l'acacia. Et elle présente une nouvelle science qui s'appelle la terolinguistique. Et la terolinguistique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'idée que les scientifiques, dans un futur plus ou moins lointain, seraient capables de décrypter le langage des terroïs, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, des bêtes sauvages, en tout cas en grec ancien, dans leur milieu naturel. Et en fait, la lecture de cette nouvelle-là, ça a été un bouleversement total, puisque pour autant, le langage des animaux, c'est quelque chose qui habite la littérature mondiale, dans les contes, dans les récits, dans les mythes, à peu près partout, tout le temps. Mais ce langage animal, il est toujours, par l'intermédiaire du divin ou alors du magique, il est toujours remis au niveau de l'humain par anthropomorphique, quoi. Il y a le héros du conte qui, d'un coup, se met à entendre la langue des oiseaux, la langue des serpents, qui se met à pouvoir dialoguer avec les chevaux, enfin bref. Et donc, il y a toujours le cheval qui se met à parler humain. Voilà. On ne sait pas très bien pourquoi, c'est comme ça, c'est très bien, c'est très agréable. Et Ursula Le Guin, à la fin du XXe siècle, propose autre chose. Elle dit, voilà ce qui va se passer. En fait, la terolinguistique, c'est tout simplement que les scientifiques terolinguistes vont pouvoir observer dans le milieu naturel, dans l'environnement de l'autre humain dans lequel il évolue normalement, une capacité d'expression propre à cette espèce ou à ce groupe local. Donc, par exemple, c'est ce que ça veut dire, c'est les fourmis qu'elle présente au tout début de sa nouvelle. Les fourmis écrivent des pamphlets en disposant des graines d'acacia. Elles écrivent des textes, en quelque sorte, qui leur sont propres, en disposant des graines d'acacia, et ça devient un message politique. Alors, c'est là que Ursula Le Guin est quand même très très forte, c'est qu'elle ne propose pas une traduction comme ça, toute donnée. Elle propose des pistes de traduction, parce que les hétérolinguistes ne sont pas sûrs quand même de ce que ça veut dire. On n'est pas très bien sûr du sens. Pourquoi on n'est pas sûr ? Parce qu'il y a une différence absolument radicale entre la fourmi et nous, etc. Et donc, elle développe ça, et puis, évidemment, la nouvelle prend, mais vraiment sur 6 pages, en quelques lignes, prend de plus en plus d'ampleur, et elle va commencer à parler de la langue des manchots. La langue des manchots, qu'est-ce que c'est ? Bah, simplement, c'est de la danse dans l'eau, voilà. Le mouvement des manchots dans l'eau, ça constitue un langage propre que les hétérolinguistes deviennent capables de décrypter. Et j'ai trouvé que cette idée-là, qu'en termes d'éthologie contemporaine, on parlerait d'umwelt, c'est-à-dire vraiment le monde d'expression, le monde de sensibilité propre à l'autre qu'humain, d'arriver à mettre de la littérature là-dedans, et plutôt que de passer par un procédé magique, de passer par un procédé pseudo-scientifique pour arriver à décrypter ou à proposer une autre approche de l'autre qu'humain, ça va, c'est clair ou pas ?
Oui, tout à fait.
On suit, c'est bon ?
Ce qui présente une difficulté, puisque nous ne sommes pas cet autre.
Exactement. En fait, il y a une différence radicale, il y a une altérité radicale qui ne peut pas être dépassée de toute façon. On ne saura jamais ce que disent les fourmis, quelle est la teneur du message.
Ni la criste marine qui est une plante des littoraux, ni la fourmi qui viendra prochainement, ni l'acacia, par ailleurs.
Exactement. C'est un langage. En fait, la terolinguistique, c'est quelque chose qui nous est, a priori, pour de nombreuses années encore, en tout cas, étranger et lointain. Voilà. Même si, encore une fois, c'est toujours à la frontière de la réalité, puisque, par exemple, j'ai entendu parler du projet Whale, je sais plus la fin du nom, de décryptage du langage des baleines par IA. Et donc l'idée, c'est que là, il y a des scientifiques qui bossent là-dessus, qui sont en train de prendre des échantillons de baleines à bosse dans plusieurs populations, qui sont en train de les mettre dans la moulinette de l'intelligence artificielle et qui cherchent à plaquer, comme un traducteur sur Google ou sur un site internet, qui cherchent à plaquer la traduction baleine humain, quoi. Bon. Ils attendent des résultats pour dans 2-3 ans, j'ai du mal à y croire, on verra.
Et je trouve que la formule qu'on a inscrite dans le manifeste de la revue...
Où j'ai dérivé un peu là.
Non, pas du tout, mais qui recoupe bien ce que tu dis, c'est dire que dans l'écriture qu'on recherche et qu'on va faire émerger par l'appel à contribution, c'est de dire que le non-humain n'est pas un prétexte et qu'il est sa propre cause. C'est faire émerger en tout cas une écriture poétique qui est fidèle, en tout cas, à cette idée-là.
Ouais, tout à fait. D'arriver à recentrer, en fait, sur le... En fait, on parle beaucoup des animaux, on parle beaucoup des autres humains, on parle beaucoup des végétaux, mais en réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est. Parce qu'il y a une différence radicale, mais aussi parce que, justement, cette altérité-là, on ne s'intéresse pas à elle, en fait. Elle est très prétextuelle, cette
différence. Peut-être aussi sortir la poésie, sans faire de généralité, mais en tout cas, il y a dans ce qui se rapproche d'une poésie qui s'intéresse à l'écologie, souvent un rapport très contemplatif à la nature ou à l'idée de nature. Et là, l'idée, c'est d'essayer de faire un espèce de pas de côté, de sortir d'une forme de contemplation pour essayer de décrire en fait le vivant sans prétention, enfin de dire que c'est une vérité absolue, etc. En tout cas, que c'est un rapport sensible un petit peu différent qui s'exprime dans l'écriture des auteurs.
Oui, c'est vraiment mais depuis le nature writing à la Thoreau, qui a été vraiment fondé comme ça, comme une contemplation de la nature un peu romantique autour de nous, dans laquelle il faut aller, dans laquelle il faut s'intégrer. En fait, ça a eu aussi ses émules dans toute l'Europe. Et nous, ce qu'on, encore une fois, très très humblement, enfin, ce qu'on veut proposer, c'est un rapport plus prospectif peut-être à ces objets-là que sont les autres humains, en allant chercher ce qui fait leur spécificité et pas seulement en faisant d'eux des miroirs égotiques de nos personnalités, de notre culture, de notre civilisation, de notre espèce, mais d'essayer de creuser un autre sillon, en fait, tout simplement, pour nous rapporter à ces autres humains.
Et ce qui est assez marrant, c'est que dans le même temps, c'est-à-dire l'année dernière, une autre revue d'éco-poésie est née, qui s'appelle Les Halleurs, qui était présente aussi à côté de nous au salon de la revue en octobre dernier, et qui présente aussi une approche qui est très différente de la nôtre, et ce qui montre bien qu'il y a cette diversité de rapport à cette question, cette volonté de lier en tout cas les questions écologiques, le vivant et une écriture poétique.
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas les premiers à se dire tiens, on va s'intéresser aux autres qu'humains, bien évidemment. Même en France, dans la poésie contemporaine, il y a énormément de productions d'écriture, de travaux qui parlent de ça.
Moi, j'ajouterais, en ce moment, j'ai découvert, je suis en train de... Segers vient de sortir les œuvres complètes de Jacques Lacarrière, et il y a tout un... On est sur le minéral, mais il y a tout un pan de son travail qui est un lapidaire, donc lapidaire des pierres, qui aussi, je trouve, se rapproche pas mal de cette volonté de faire parler, en tout cas, les pierres par ce qu'elles sont, etc. Et qui sont des textes qui sont des années 80-90.
Ah bah c'est la géopoésie qui est aussi un...
Et c'est assez...
qui est une
assez
montagne.
Fantastique de voir aussi... en tout cas, de remise au goût du jour, ces écrits-là, que moi, personnellement, je ne connaissais pas, qui existent et qui sont remis en valeur, en tout cas, là, par un éditeur.
Oui, justement, moi, sur la théorie linguistique, ce que je découvre avec Le Guin, en fait, c'est un monde à part entière. Alors, je ne sais pas si c'est Le Guin ou Le Guin. Je sais qu'il y a des chapelles là-dessus et j'espère que les traducteurismes me pardonneront. Il y a des chapelles entières. On pense à Vinciane Després, qui publie l'autobiographie d'un poulpe, justement, qu'on cite juste ici. Alors, c'est pas vraiment de la poésie, mais elle tend parfois vers la poésie dans son écriture. Pourquoi ? Parce que, justement, la poésie est le moyen de recherche dans la langue ou la fin de recherche dans la langue la plus propre à apporter du nouveau ou à proposer du nouveau dans cette approche-là. Or, ce dont on a besoin pour redéfinir notre rapport, pour redéfinir notre monde, pour repenser largement notre monde, et ben c'est justement un nouveau radical. Et ça, il n'y a que la poésie et les poètes et les poétesses dans leur ensemble, c'est-à-dire en tant que communauté, puisque ça, on va y revenir aussi, mais c'est une quête qui est collective, qui n'est pas personnelle, chacun dans son petit coin, c'est on essaye de faire ensemble, qu'il n'y a que la poésie qui peut parvenir à ça. C'est conviction.
Peut-être là. Qu'on peut donner un aperçu avec une lecture des textes dans texte chacun du premier numéro.
Oui, tout à fait. Alors, ce premier numéro... qui on a dedans, on a... Oh, pardon, excusez-moi.
Il est sorti en juin dernier.
On a Hortense Rénal, Pierre Gontrandi-Remous, Héloïse Brésillon, Mélina Bessich et Antoine Mouton qui sont dedans, qui sont... en fait, comment on fonctionne, on discute entre nous et on choisit tous les trois, tous les quatre, Zora et...
Sinon, ouais.
Et évidemment, partie prenante du processus, même si elle a moins un pied dans la poésie. On contacte directement les autoristes. Pourquoi ? Parce que on connaît pas mal de revues qui fonctionnent avec des appels à textes et l'idée de devoir trier dans 500 textes à chaque numéro ne correspondait pas à notre attente. On voulait sélectionner un peu nos laboratoires éphémères et puis travailler avec une équipe.
D'ailleurs, si certains des poètes et poétesses qu'on va chercher fournissent déjà un travail qui est en lien avec l'éco-poésie,
oui.
L'idée c'est aussi d'aller chercher d'autres noms et d'autres signatures qui en sont éloignées finalement et qui pourraient.
Oui, c'est pas un club d'éco-poètes, quoi.
Oui, à ce chant choral qu'on veut proposer, quoi.
En fait, on cherche des écritures qui nous semblent intéressantes pour aller chercher ce nouveau-là. Au fond de l'inconnu et trouver du nouveau pour paraphraser le vieux Charles et proposer par rapport à un objet qu'on impose, c'est-à-dire le poulpe, la fourmi, un rapport nouveau, en tout cas une pensée nouvelle. Je sais pas si c'est clair, non ?
Est-ce que tu veux...
Je me lance sur Antoine ?
Si tu veux, moi je prendrai le texte d'Hortense.
Tu prends le texte d'Hortense ?
Ouais.
Allez. Un jour, j'ai protesté. On m'a dit, ta colère n'a pas lieu d'être. Ta colère n'a pas lieu d'être, donc, n'a pas lieu. Et j'ai pensé à tout ce qui n'avait pas eu lieu jusqu'à présent. Un jour, j'ai observé un poulpe, et je me suis aperçu que je ne savais rien de lui. Mais j'ai vu ce qui avait lieu avec lui. L'eau, le fond, le bas, le haut, les alentours et la lumière aussi. Je ne sais pas si vivre me plaît, mais j'aime avoir des mains, avoir lieu et devenir paysage, mieux, devenir paysage sans avoir à s'en frayer un. Mon lieu de travail, mon lieu de vie et le chemin de l'un à l'autre jamais nommé. Sur ce chemin, l'idée me vient de ne plus aller nulle part, de n'arriver à rien, me défiler. Je zone entre habiter et travailler. Attentif à la moindre bifurcation, ému par un virage. J'éprouve des sentiments pour tout ce qui traîne. Si j'ai bien compris, l'amour serait ce qui permet de vivre au-dedans de soi, et le travail, au-dehors. Mais la peau, jusqu'à présent, tout était peau, rien dedans, rien autour, ni sentiment, ni connaissance, juste une grande étendue, un bord, un grain. Des millions de ventouses. La mue, la vie. Être, et pas seulement. Je suis rentré, mais j'ai la tête ailleurs. Je suis dans la vie et dehors. Je ne respecte pas vraiment les frontières. La peau, j'ai cessé d'y croire en 1989. Ça n'a rien à voir avec le mur de Berlin. Ou peut-être que si. On entendait des voix jusqu'aux années 1990 qu'on n'entend plus aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le sida ni la drogue. Ou peut-être bien. La chute de l'amour de Berlin, le sida et l'URSS, deux fois quatre majuscules. Les voix se demandaient comment exister, on ne les entend plus. Mais elles continuent de nous parler, elles mettaient l'existence en jeu, elles changeaient la donne. La donne est devenue le dû. On n'a plus rien entendu. Il y a eu un silence bien réunifié au-dessus de la mort. Les vivants d'un côté, et pour les autres, il n'y aura plus d'autre côté. On traversait des peaux, des frontières et des murs, on changeait de genre, de monde, de point de vue. Tout est tombé, il n'y a que ce qui est, j'y suis. Mais avant, j'ai vécu. Et je vivais sans y penser. J'étais constamment dans les choses et en dehors des choses, à la fois. Pas il était une fois, à la fois, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est deux fois l'existence. L'existence dedans, l'existence dehors. J'y suis encore, là et pas. Là-haut, là-bas, je pose une échelle, gravis, me hisse. C'est la nuit de l'autre côté, je saute à pieds joints. Mais c'est la nuit, ici aussi. C'est la nuit et la nuit et la nuit et la nuit. Un passé et un autre. Un corps et deux histoires. Trois voix très différentes, mais qui se disent tout et à la fois se taisent. On commencerait par toutes les nouvelles histoires, par « à la fois ». À la fois le travail et l'amour, à la fois la souffrance et la joie, à la fois être et devenir, à la fois la maison et le monde, à la fois le rêve et la pensée. J'ai fait le mur, et à la fois j'ai fait le mur. Nos sentiments vont s'épaissir et tout le reste sera couvert de neige. On aime surtout ceux qui font. Regardez, je disparais. Un jour je vais. Pas quelque part, seulement je vais. Et je vais à travers le temps. Et le temps est compris dans cet arbre, est compris dans cette rue, est compris dans cette fenêtre, est compris dans cette voiture, est compris dans ce magasin, est compris dans ce gravillon, est compris dans cet aboiement lointain. Le temps est compris par mes pieds. Le temps passe à travers mes jambes, remonte le long de mes jambes. Et je passe à travers le temps avec ma tête, avec mes épaules, ma poitrine, mes mains, oui. Mon bassin, tiens. Un tentacule. Un bec. Un poing. Je passe. Là, dans le temps. Je n'y suis jamais absolument, j'y vais. Relativement. En relation avec chaque seconde. Une seconde, c'est après la première, une autre, un temps. Voilà, c'était un texte d'Antoine Mouton.
Pas de vertèbres, tête et bras, céphalée, podium, céphalopode, apparition changeante rémunérée de rien, des enfers du sentiment océanique en emportaient les traces, peur mosaïque, losange étoilé. Une vie qui est pélagique, une vie qui est loin du fond, plus éloignée des pressions que des humanoïdes, pas timide, approche. Et vu des amis qui meurent, siphon opérant qu'en danger animal ou humain, du noir propagé dans le transparent, c'est le trouble qui se laisse. Des bras, huit bras, des ventouses, colle à la pierre avec cette vérité nue des choses qui existent depuis 1000 ans, cultive l'avancée non terrestre qui a oublié le poids, légèrement léger, avale et boit. Impossible pied à terre, sauf au goût de la fourchette cruelle. La vie a une vie à trois vitesses, paresse ultime de l'habitude, gicle grand moteur de la survie à retardement. Ne sera pas mort certaine, ne sera pas mort vilaine. Influençable direction de la suite dans ce courant ignoré de la plage. Cerveau, chapeau, neuronalement, le mouvement communique en réflexe primitivement les gestes. Ça reconnaît, ça vieillit. Là, depuis plus que longtemps, qui es-tu pour ne pas avoir à éprouver les bas-fonds ? Joue la mélodie des côtes de la mer domestique. Une vie qui est chromatophore, une vie couleur, protéiforme des surfaces, compréhensible, immédiat, copain-copain, ça colle, variation précise mais rapide, suivi fluctuant. Bouche au milieu de tête, peu ou pas de langue, de bruit, de son, solitude d'avec les congénères, garder le silence. Donne le ton avec la peau, pas les os, pas les dents, pas dans les cordes, proie, subissent. Une vie qui est noctambule, tanière obligatoire de jour aménagée unitairement, parfois co-organisée, affaire de peu d'aiguilles tournantes, stable recherche d'un repos sableux. Sperme au bout du troisième bras, mort imminente après créativité passant du dedans au dehors, ne pas s'en étonner, idem, mère quand œuf éclos, éducation, non. destin en sillon orphelin de trois fois une année. Une vie qui est non menacée. Vivacité tranquille, les nombres le sont aussi. Des milliers par ponte, faut dire. Mais une seule fois la couvée pèse dans la balance de la vengeance. Peau molle comme un manteau mou, individu mou, quasi tout est mou, c'est beaucoup. Mais musculeuse locomotion, sensitivement mouvant, fondu, enchaîné, n'a rien vu. Au toucher des excroissances arrondies, peuvent entrer dans la plus petite des brèches. Une vie qui n'a pas d'hémoglobine, sans sang rouge, pour l'autre qui est bleu, tégument ne le montre pas. L'eau voyage d'ailleurs aussi bien dedans que dehors. Un bec, déchiquette ardemment, efficace, sauf quand on ne s'alimente pas si trop occupé aux soins. Meurt de famine, mais sinon déchire bien petit, petit, mais aussi gros. Une vie qui peut retenir, qui peut obstacler, c'est-à-dire comprendre les obstacles. Adaptation même au plexiglas, même au bocal. Impression durant le parcours. Des organes au complet dans un corps sous des yeux, paraît pourtant pas total. Chemin sans transition d'une poche vitale. Intérieurement, le sac. Une vie qui est benthique, par opposition à pélagique, ça cohabite. Le poulpe recouvre plusieurs sortes de vie. Pas dire le poulpe uniquement, connaît le grand nombre de noms. Nom ne suffit pas ce terme générique. Des yeux discrets qui voient complexement très bien, mis au point bavure, puis propre, puis bavure. Une vie. C'était un texte, donc, de... le texte d'Hortense Rénal, pélagique, dans ce...
Pour fun.
Pour fun.
Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce premier numéro, c'est qu'on a senti d'emblée, on n'a vraiment pas donné de direction, on a été, enfin, notre credo, c'est, pour le moment en tout cas, une carte blanche totale où vraiment on donne
quelques éléments
manifestaires, en fait.
Ceci dit, pour le premier, peu, plus ouais. que moins, en tout cas, que pour les...
Oui, clairement moins. Quelques éléments disparates, mais qui tiennent vraiment sur une demi-page Word. Et voilà, et le thème qui était le poulpe là dans le premier numéro. Et ce qu'on a senti, c'était à la fois un tremblement, et il faut reconnaître que les poètes et les poétesses sont quand même assez balèzes pour ça, d'aller chercher la membrane, quoi, la frontière entre eux et le reste des choses, et de parvenir à créer cette hybride, ce monstre. Voilà, et ça nous a, moi, ça m'a pas mal, en tout cas, convaincu qu'on était sur un bon chemin, qu'on n'avait certes pas trouvé notre destination, ni le trajet, mais qu'en tout cas, on avait fait un bon premier pas.
Puis moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la diversité des écritures.
Et à la fois des choses qui se rejoignent, je trouve. C'était quand même assez étonnant de retrouver un vocabulaire, outre le mot poulpe, certes, qui réapparaît à plusieurs fois, ce qui peut être compréhensible, mais de retrouver un vocabulaire, je pense, là, dans les deux textes qu'on a lus, on a quand même cette histoire du dedans-dehors.
Anatomique aussi.
Oui, très anatomique, effectivement. Enfin, on a des convergences dans cette diversité d'écriture, de style et de quête qui sont assez étonnantes.
Mais en même temps, des instantanés qui racontent aussi.
Oui, c'est ça.
Des choses très différentes.
Avec cette grande question qui était en tout cas mon problème pendant longtemps quand je pensais à ces sujets-là ou quand j'essayais d'écrire sur les méduses, les poulpes, les baleines, toute cette petite faune sympathique, c'est que en fait on est toujours que soi, c'est-à-dire qu'on est toujours fermé dans notre propre umwelt, dans notre propre système de sensibilité, que se demander ce que sent le poulpe, en fait, on arrive assez rapidement à une impasse. On peut faire des propositions, mais on ne saura pas ce que sent le poulpe, qui a son cerveau dans les bras, qui a un bras spermaté, je ne sais pas comment on peut dire, qui a des yeux, une perception des couleurs radicalement différente de la nôtre, et qui même dans le chemin de l'évolution, en fait, son l'ancêtre commun est un des plus vieux par rapport à toutes les autres espèces de vertébrés ou de non-vertébrés. Et les céphalopodes, c'est vraiment une branche à part, quoi, de cet arbre de l'évolution. Donc c'est même une intelligence radicalement, radicalement différente de la nôtre. Et voilà, on est toujours que soi. Et donc comment est-ce qu'on fait pour écrire sur un sujet alors que finalement ce sujet n'est pas nous ? Eh bien, je pense que la réponse, et Hortense et Antoine, qui sont beaucoup plus malins que moi, ont répondu beaucoup plus vite, c'est qu'en fait, il faut partir de soi pour parler des autres qu'humains, et que parler du monde, bah, c'est toujours à travers son propre prisme, et qu'il faut l'assumer tel quel, quitte à le nier derrière ou à le détricoter derrière, mais que dans ce projet d'écriture-là, il faut... c'est pour ça qu'Antoine parle de SIDA, du RSS, de plein de choses qu'il le travaille, lui, de références historiques très humaines, quoi. En fait, il part de lui pour parler du poulpe, et ça fonctionne très très bien, je trouve, dans cette proposition-là.
Oui.
Voilà.
Sinon, ce que je trouvais aussi... plutôt pas mal, c'est qu'en termes de rapport texte-image, parce que c'est ce qui est intéressant dans la mise en relation dans la revue.
Je vais laisser le designer en parler.
Donc il y a le travail de Zola, puis les propositions qui ont été faites et qui marchent bien aussi, c'est-à-dire essayer de...
Dans ce premier numéro, on a deux illustratrices. Claire Pinchot et Julie Pereira qui ont fait un travail absolument fantastique. La caméra est par où exactement? Par là-bas. Oui, c'est un peu loin, mais bon. On montre quand même d'autres choses. Je montre le gros poulpe.
Alors je vais en chercher un autre.
Et qui existait aussi, que Zola Mrad a réussi à sortir en grand format. Et donc ça fait des grandes affiches comme ça, il nous en reste hein, d'ailleurs, si vous en voulez, n'hésitez pas à nous demander. Mais toujours dans cette idée de sortir du livre, quoi, avec des grandes illustrations comme ça, des grands poulpes. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une affiche géante, quoi, un truc comme ça. Bon, on en reparlera.
Et donc à partir de ce premier numéro, se poser la question de la continuité, la pérennité ensuite de la revue et du projet. Et l'idée de est-ce qu'on alterne, comment on alterne les thèmes, par exemple, quelle est la périodicité de l'objet, vers quel propos on veut aller, quels débats éditoriaux ça peut nous amener. Ça nous a amené à un deuxième numéro et puis bientôt un troisième avec des choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs tranchées ou qui restent des sujets de débat comme par exemple ce rapport à la scientificité, je pense. Toi, tu en parles mieux que moi, mais...
Qui est là
bon, sur ce débat entre quelle part de sensibilité ou de scientificité dans ce qui est demandé en termes de recherche, d'écriture
Quoi que ce soit pas opposé. Hein.
Oui, non, ce n'est pas opposé, mais... Tiens.
Non, mais c'est vrai que moi, je pars de l'éthologie pour penser l'éco-poésie, justement. Enfin, des grandes... Il y a quand même des avancées absolument incroyables scientifiques. Il me semble qu'on ne peut pas se passer de ces découvertes-là qui sont arrachées... Par des scientifiques qui partent au bout du monde pour savoir comment se comporte une fourmi au Groenland.
Et mais en même temps, on propose de la poésie.
Donc on propose de la poésie, exactement.
Un rapport sensible au monde qui charrie nos propres émotions.
Exactement. Et donc ça, c'est la grande question. C'est qu'est-ce qu'on propose à nos auteuristes quand on les invite pour les conduire sur ce chemin de l'écriture. Est-ce qu'on propose rien du tout, sinon le thème et à la limite deux, trois informations? Ou est-ce que, et ça j'avoue que c'est plutôt ma chapelle, on fait un compendium de
10 pages réduit à une page.
de 10 pages de recherche et de compréhension du thème pour leur dire, bah voilà, en fait, si on parle du poulpe, bah, on va plutôt vers ce chemin-là. Le poulpe, c'est ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire d'arriver à faire une synthèse, un petit article quoi, sur le poulpe qui puisse permettre, avec les références littéraires, avec les références éthologiques, qui puisse permettre à l'auteur ou à l'autrice de se lancer dans le sujet, quitte à s'éloigner des indications ou des informations.
De ne pas s'y référer.
Bien sûr, avec toujours cette liberté totale. Voilà, et donc c'est toujours des trucs qui sont en suspens. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes méthodes d'écriture, et d'ailleurs justement ces différentes méthodes d'écriture, ces différentes pratiques de la poésie, parce que je pense que ni Florian, ni Célima, ni moi n'avons la même conception, la même méthodologie, la même approche, la même pratique, on a fait le pari aussi de parvenir à les conjuguer. Et quand on disait tout à l'heure que on fait pas de l'éco-poésie dans son coin, mais que c'est quelque chose de politique qui est communautaire pratiquement, eh bien on cherche justement à faire une écriture qui soit aussi collective.
Donc une écriture à six mains.
Donc une écriture à six tentacules, effectivement. Et c'est, en vrai, c'est assez intéressant.
Ce qui donne, en fait, enfin, à chaque fois... À faire. Oui. Un texte dans chaque numéro, un texte donc écrit à six mains, où on essaie de trouver un peu notre langage collectif en se donnant la liberté d'écrire, à ce que l'autre revienne dans le texte, modifie des choses sans en référer à l'autre.
Non, mais on se massacre. En fait, voilà. On massacre le texte les uns des autres, et puis l'idée, c'est de repasser, et après, il y a la substantifique moelle qui demeure.
Jusqu'à trouver un poème, en fait, qui nous correspond à tous les trois et qui forme, voilà, un texte collectif et qui correspond, en fait, à ce qu'on veut.
Comme de la sculpture, en fait, quoi. Voilà. On taille notre bloc d'abord, et puis ensuite, on taille dans le bloc, quoi.
Mais par rapport à la revue, ses thèmes, etc., là, on parlait du monde animal, tu parlais d'éthologie, de la question de les animaux ont-ils un langage, quel langage, etc. La question, elle est d'autant plus difficile pour les plantes. Et donc, d'avoir une écriture du vivant et du monde végétal, d'en comprendre la sensibilité s'il en existe une, et de la transcrire poétiquement. Et c'est ce qu'on a essayé très humblement de faire dans le deuxième numéro, en faisant travailler cinq poétesses et poètes sur une plante marine, la Christ marine, qui se trouve sur les littoraux atlantiques et méditerranéens européens.
Tout le monde a vu une Christ marine, mais personne ne connaît le nom Christ marine. Et moi, je ne connaissais pas avant que...
Moi non plus.
C'est Lima qui a proposé le thème au début.
Une plante avec des fleurs jaunes, qui a des feuilles grasses, qui ressemble à une plante grasse, en fait, et qui est vraiment sur les dunes et sur les falaises. À titre personnel, je trouve l'exercice encore plus intéressant, dans le sens où, non pas faire parler les plantes, mais essayer d'exprimer la sensibilité des plantes, c'était quand même, en matière de littérature, quelque chose d'intrigant et de marrant.
Oui, ouais, tout à fait. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, ce projet est un échec. Non, mais en fait, on ne peut pas réussir. On ne peut pas écrire ni la Christ, ni le poulpe, ni la fourmi. On se rate forcément. Pourquoi ? Parce que le réel n'est pas ça. Mais justement, dans la quête même, dans cette quête de l'échec, y a quand même quelque chose à trouver, il y a quand même quelque chose à travailler, à réussir. Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un exercice infini. C'est-à-dire que écrire le poulpe, on pourrait passer sa vie à essayer d'écrire le poulpe, qu'on n'aurait jamais fini de trouver un nouvel angle, une nouvelle chose, un nouvel... Voilà. Et ça me semble intéressant, de ce rocher de Sisyphe qu'on monte et qui redescend toujours. Je trouve ça absolument passionnant. Je trouve que c'est un beau supplice.
Et ce qu'on peut vous proposer, c'est de faire lecture... de notre texte sur la Christ marine, notre texte collectif.
Tu veux qu'on fasse la Christ ?
Oui, qu'on a l'habitude, sans se partager, un peu de manière improvisée, c'est marrant. Pousse, pousse,
pousse à flanc de pic.
Ligne de vie pointillée, jaune
flottant.
Luxure buissonnante en épanchement vert, là où rien ne pousse,
sauf nous
et nos bouquets, tête à l'envers.
Unique parmi les arbres du monde.
Nos racines menacent des falaises épiques.
Supportent les dunes.
Même celles qui brûlent.
Arides et austères.
Ni résistance, ni invisibilité.
Notre présence siège grain à grain.
Le désert coule entre nos mains, entre lui et la mer. Bataille fratricide inachevée.
Longtemps après nous.
Longtemps après vous.
Longtemps après tous celles qui savent.
Et tout ce qu'elles croient savoir.
Nous piquerons les monticules de mer et de désert.
Éternellement occupés à s'entre-dévorer.
Ne vous laissez pas impressionner.
Par nos tifs mal accordés.
Nos bouts touffus mal fagotés.
D'où dépassent nos doigts frisottis longilignes, graphiques comme les cactus des vieilles planches de BD.
Nous.
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 Nous poussons plus vite que notre ombre.
Mais pour le faire, nous ne gâchons la terre de personne.
Nous investissons des lieux où la vie semble impossible à planter.
Des ruines.
Fossiles érodés.
Corrodés et salines.
Que nous faisons fleurir de nos rêves agrippés.
Vous ne nous connaissez pas.
Vous ne voulez pas nous connaître.
Vous manquez de curiosité.
Vous nous voyez comme le miroir de vos désirs revêches.
Vous nous convoquez.
Émerveillés pour embellir vos balades, vos salades, votre escalade du bout de vous-même qui fracasse le monde entier dans sa chute prédictible.
Pourtant,
vous l'ignorez avec effort et
persévérance dans l'échec.
Ce sera quand même à nous.
Nous qui tenons là, quoi qu'il advienne, d'entretenir votre souvenir.
Lui qui s'immisce partout et pour toujours.
Qui demeure, qu'on le veuille ou non.
Qu'on devra habiter dans les airs à venir.
Nous prendrons racine.
Même dans vos collines anthropiques.
Allez.
Pour voir.
Juste pour voir.
Pour voir.
Prenez une seule d'entre nous.
En octogone, sans règle, contre votre plus grande autoroute.
La Christe contre la 6-9.
La 69.
La Christe gagne.
Prenez le plus fort de vos enfants et donnez-lui 1000 ans pour construire un château de sable.
Donnez-lui les meilleures pelles, les meilleurs seaux,
le plus fin des tamis. La Christe gagne.
La Christe gagne.
Envoyez-nous votre falaise, la plus solide, la plus fière, la plus rocheuse des falaises.
Et regardez-nous faire.
Nous avons le temps.
Nous avons le temps.
Nous gardons l'avantage et les bourgeons qui sont notre avenir. Nargue, déjà les roues chauffant sur le parking et les pieds à méduse qui s'accrochent à nos corps.
Nous sommes de petites graines de pastèque, oubliées une semaine au fond d'un torchon sale et humide.
Et qu'on retrouve germées par leur propre volonté. Pas comme ces lentilles de pacotille que l'enfance laisse pourrir dans des gobelets. Disons que vous êtes le chêne qui craque.
Disons que vous êtes le chêne qui craque.
Et nous, la Christe qui résiste.
Nous, la Christe qui résiste.
Fille de la biologie du changement chrismatique. Photo, sécheresse.
L'audace, c'est le choix de la solitude.
Et seules les victoires comptent qui viennent.
Sur terrain sec.
Humide.
Iodé.
Où le soleil crame le dos. Et les pieds.
Mais on traverse, on transperce.
Et on s'enracine.
On colonise sans rien dire, ni dominer personne que...
L'univers.
L'univers.
On prend des notes sur tout ce que l'on voit.
Dans le secret des roches, on met des petites remarques.
Dans le sous-sol, on renseigne les sources.
On archive, on discourt sur vous, sur d'autres.
Surtout sur d'autres.
Et les fourmis s'amusent à nous lire.
On est resté fragile.
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 Pas mascu parmi les vers.
Pas cactus couvert de pics.
Pas ronce quadrillé d'épines.
Pas séquoia sous stéroïdes.
On n'est même pas dur à cuire.
On sait perdre, quoi.
Et avec goût. Bouquet de haricots verts au cœur mouchou romanesco.
On est souple.
Tendre.
Tendre.
Gracile.
Habitué à survivre.
Difficile à détruire.
Sol instable, vent marin, tempête immense.
Chatouille à nos feuilles.
On fenouille des parfums anisés aux grandes marées.
Qui arrosent nos rhizomes, où meurent les embruns et les rayons UV.
Notre seule fin
est d'infiltrer le ciel.
Et d'infiltrer le ciel.
Vous voyez ?
Vous voyez.
Vous voyez ?
Vous voyez, en somme, on ne demande rien.
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 Trois fois rien.
Rien, rien, rien.
Juste à voir chlorophyller le temps.
Juste à accueillir un gros bourdon rayé.
Cueillir le soleil.
Déraciner les tropiques.
De temps en temps, et atteindre la mer ou le désert. Peu importe.
On tient, de toute façon. Voilà, donc c'est... je ne sais pas si ça s'entend pour un non-fun, mais moi, à chaque fois que je relis ce texte, on voit les traces, quoi. On voit les ruines de nos écritures propres, ouais, à chacun. Et puis, ce qui apparaît derrière, c'est assez intéressant. Ça se voit par un adjectif, ça se voit par une tournure, ça se voit par un thème qui revient d'un coup au détour d'un vers.
Mais ce qui est assez intéressant, ceci dit, c'est que finalement, le texte ou le poème qui ressort est assez fidèle à ce qu'on fait nous-mêmes aussi, à la fois individuellement et collectivement, c'est-à-dire une poésie assez rythmée aussi.
Bah, qui est dessiné pour l'oral, ou en tout cas, oui, qui est à vue de scène, quoi, en fait, effectivement.
Et ouais, donc finalement, dans la différence de nos écritures, on arrive à se retrouver dans un texte collectif.
Un espace commun.
À la fois les...
C'est beau ce que tu dis, Florian. Un espace commun malgré les différences, quelque part.
À la fois qui les regroupe et qui on fait voir les particularités aussi, quoi. Mm. Et ça, je trouve ça assez intéressant, en tout cas comme exercice d'écriture.
Oui, oui, tout à fait. Même à dire sur scène, c'est toujours des moments assez amusants, parce que dire un texte en tant que collectif à la fois le texte ne nous appartient pas et à la fois on défend quand même un peu de notre écriture, en tout cas notre projet. Donc y a, c'est une ambiance assez particulière de dire ce texte sur scène. Voilà, puis le troisième sera sur la fourmi dans...
Au mois de juin. Enfin, l'idée, c'est de... On n'a pas déterminé qu'on avait une périodicité semestrielle, mais elle devient, de fait.
Ouais.
Donc l'idée, c'est d'avoir un numéro en début d'année, milieu d'année, ou fin ou début d'année et milieu d'année
en solstice. Voilà. On s'est calé sur les solstices, finalement.
Et de présenter ça toujours dans un cadre, alors là, dans le cadre d'un festival avec d'autres collectifs, éventuellement.
Je crois qu'on n'a pas le droit d'en parler.
On
va se retaper sur les doigts si on en parle.
C'est pas grave. Mais en tout cas, dans le cadre d'un événement qui est important et qui permet de mettre en scène, enfin de faire venir d'autres auteurs, de mettre en avant cette
scène. Et d'agréger la poésie aussi avec d'autres arts et peut-être encore toujours dans cette dynamique-là, d'essayer de réintégrer la poésie dans le champ de la lutte sociale. Alors, encore une fois, très humblement, parce qu'il y a les luttes politiques et sociales sont menées par des gens qui parfois risquent leur vie. C'est pas mon cas, en tout cas. Donc, je le dis avec toute l'humilité du monde, mais avec vraiment cette volonté de faire en sorte que la poésie soit quelque chose qui s'inscrive et qui soit à la fois une tribune et à la fois un espace et à la fois un souffle qui permette à des gens qui n'ont pas forcément tout le temps l'occasion de s'exprimer, de venir construire un discours, de venir présenter leur pensée, leur réflexion, leurs images, et de joindre les forces de la poésie à ça. Non pas pour dénaturaliser la poésie ou la désubstantiver, mais au contraire pour lui redonner des forces en la mettant dans des espaces qui sont des espaces de danger, de fait, de danger de la pensée, de danger de la lutte, et la revivifier par ça. Voilà, je ne sais pas si c'était clair ou pas, encore une fois. Pas du tout.
Et qu'est-ce qu'on peut espérer ?
C'était clair dans ma tête.
C'était très clair.
La pensée en danger, donc. Quel type d'espace qui va permettre d'intervenir par la poésie, donc c'est aussi pas un danger si... Enfin...
Non, c'est vrai. Encore une fois, moi, ma pratique et ma personne dans la poésie ne sont pas en danger particulièrement. En revanche, quand on croise des gens qui ont des identités qui les poussent à être en danger du fait même de leur existence par rapport à la montée des fascismes, à la violence du néo-capitalisme, Eh bien, ces gens-là, moi, j'ai envie d'organiser des choses pour permettre leur discours et de faire en sorte que la poésie que je défends et la poésie que je fais, la poésie qu'on organise, elle vienne à joindre les forces, quoi. Qu'elle soit un liant, qu'elle soit un pont entre différents discours, entre différentes pensées, qui permettent de renforcer des communautés ou de renforcer des discours. Voilà. Mais sans que la poésie soit un moyen, enfin, je veux dire, c'est la vieille... La vieille dispute de la poésie engagée, la poésie formaliste, voilà. C'est pas du tout la question. C'est-à-dire qu'on peut faire de la poésie formaliste qui est de la poésie engagée, avec fun. Et je pense qu'avec Florian, pour le coup, là-dessus, on est assez au clair là-dessus. Bah, on veut que cette poésie-là, elle tape, quelle que soit sa forme, et elle soit au premier rang de la manif, quoi.
Je crois que l'idée même de poésie, comme l'a dit et répété Olivier Barbaran, est acte de résistance. Moi, j'aime bien la formule en elle-même, c'est-à-dire l'idée même du discours poétique par rapport à la brutalité du discours éventuellement technocratique et autre, est déjà même une forme de résistance à ça et d'engagement. Donc,
Oui, mais c'est la vieille réflexion de Lordon, justement sur toute la collection chez Actes Sud, je ne sais pas si vous connaissez les mondes sauvages, je crois. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Penser en iceberg, habiter en oiseau, etc., etc. Je ne sais pas si vous voyez ces livres-là. Donc, une collection d'éco poétique qui est contemporaine, qui est la plus connue en France, je crois. Et Frédéric Lordon fait cette remarque vis-à-vis de ça, c'est que c'est très bien de rêver en iceberg, d'habiter en oiseau, mais s'il n'y a pas derrière une critique structurelle de la violence du néolibéralisme et du capitalisme, tels que peuvent le penser, je sais pas, aujourd'hui, Barbara Stiegler, par exemple, des gens comme ça, si on n'intègre pas ça dans la création, et ben en fait, oui, ça reste de la poésie un peu contemplative on va pas se faire de copains en disant ça, mais qui se contente de regarder le désastre arriver sans même essayer de se battre, même si encore une fois la poésie va pas sauver le monde, c'est pas en écrivant un poème sur un poulpe que on va sauver les poulpes ou je ne sais quoi, mais c'est une question de refonder les imaginaires dans autre chose, quoi. Et pour refonder les imaginaires, en fait, ça sert à rien de repenser la place de la fourmi ou du poulpe vis-à-vis de nous, si on ne pense pas à la place de notre voisin ou de notre voisine vis-à-vis de nous en même temps. Voilà, donc il y a un lien total dans la création même écopoétique, et je pense que ce lien entre les choses et les êtres dans la pensée écopoétique, il faut qu'elle se retrouve à un moment ou à un autre dans la mise en place médiatique de cette écopoésie au niveau sociétal. Non, c'était toujours pas clair. J'essaye, hein.
Qu'en pensez-vous, public nombreux ?
Est-ce que vous avez des questions ?
Alors moi, j'ai une question. Vous êtes à quatre. Quand vous rédigez votre texte, qui décide à la fin d'arrêter les idées pour dire, bon, on publie ce texte-là ? On s'arrête à cette ligne.
L'imprimeur, non ? Est-ce qu'on peut répondre ça ? En fait, il y a un moment où il faut envoyer le texte à l'impression, et c'est un peu notre...
C'est beau. Disons qu'on a à peu près la longueur du format en tête, en termes de calibrage, on sait à peu près que ce sera... je ne veux pas dire de bêtises, mais ça, sur un format A5, c'est de 4 pages A5. Donc, on a une longueur à peu près en tête quand on regarde un document Word, puisqu'on écrit essentiellement sur l'ordinateur, quoi.
Oui, ça, c'est le gros avantage, quand même, oui. De pouvoir être tous connectés en même temps sur le même document.
Et en fait, on a un travail très coopératif et collaboratif d'inclusion,
Propositions, mais c'est de relecture.
En fait, c'est assez intuitif. Il n'y a pas une rigueur absolue. Après, on arrive à peu près à savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter.
Oui.
Il n'y a pas de conclusion, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, dans ces sujets-là, on peut partir à l'infini.
Oui, tout à fait.
Parce qu'en fait, on ne peut pas dissocier les êtres et les choses. Et l'environnement, et la nature.
Non, tout est en connexion.
De la même chaîne.
Oui, bien sûr.
À n'importe quelle époque de la vie, avant, après, dans le futur, dans l'avenir. Donc, moi, je suis savoyarde, donc on parle des Alpes. Moi, j'ai appris à sculpter les marmottes en 1980.
À sculpter les marmottes ?
Je fais de la sculpture sur bois.
Ah oui.
Maintenant, je fais du dessin.
Pas sur marmottes.
Peinture, ça fait mal pas mon métier d'origine.
Sinon, voilà. Ça fait mal aux marmottes.
C'est sur titre du tilleul.
OK. Voilà.
Donc, c'est une suggestion, si vous voulez parler. Les autres animaux, à l'avenir, vous pourriez suggérer les êtres qui vivent dans vos régions natales, peut-être.
Oui.
Sur les quatre, pour les quatre. Hein,
la marmotte, c'est intéressant.
Personnellement, j'ai un projet de recueil sur les Pyrénées.
Et c'est vrai.
J'ai un texte sur l'ours, là.
T'es déjà sur l'ours et les marmottes.
Oui. Mais ça, c'est mon...
Ce ne sont que des suggestions, hein.
Non, parce que vous avez parlé des haleurs. Je ne sais pas si vous suivez leur travail. Vous étiez l'un à côté de l'autre au Salon de la Revue.
On a même fait un texte pour eux
dans leur numéro. Là,
d'accord. Parce que quelle différence politique ? Parce que le premier des numéros des haleurs, il y avait des textes qui étaient, eux, très politiques, me semble-t-il. Je n'ai plus tellement en mémoire. Si.
Ah oui, sûrement, j'essaie de me rappeler ou de...
Je ne sais plus, c'est un texte d'une femme qui parlait d'eau qui manque. Je ne sais plus qui était cette poétesse qui est déjà reconnue. Voilà, donc c'était... Quel différent ? Est-ce que vous voyez une différence un peu d'approche ? Parce que ce qu'ils disent de l'éco-poésie me paraissait, quand j'ai lu, un peu rhétorique, en fait, à vrai dire. Cette poésie où l'humain qui pourtant l'écrit s'abstiendrait d'être là. C'était ça. Ce qui me paraît très artificiel. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, l'éco-poésie, c'est à la fois Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et je ne sais qui.
Oui, c'est rétroactif.
Ce ne sont surtout pas eux. Alors, je ne vois pas qui. Est-ce que ça va être jacoté, parce qu'il parle d'un arbre infiniment.
Non, mais c'est,
ou est-ce que c'est pas du tout jacoté? Et donc c'est pour ça. Après, j'ai pas lu Jean-Claude Pinson qui a théorisé tout ça. Peut-être vous l'avez lu, mais je n'arrive pas tout à fait à comprendre ce concept, cette notion. Vous l'avez très bien explicité, hein, ceci dit. Mais ça me paraît.
Parce qu'on reste vague.
C'est un petit peu étrange. Ça, c'était une remarque que vous pourriez. Et je me demandais si vous aviez envie de publier Sophie Loiseau, par exemple.
Je connais mal son travail. Je vais être
qui
très
paraît
franc,
vraiment, mais à l'intersection de ce que vous faites. Ouais. Un de ses premiers textes s'appelait « La nue bête ».
Oui, non, mais.
C'est dire à quel point son rapport à la nature. Je me souviens qu'elle disait ce que j'aimerais pour écrire, c'est d'être perdu dans la forêt, seul, etc. Puis elle essaye de réinventer une langue, on va dire, féminine, en dehors d'être aussi animal. Voilà, c'était...
On a Axel Sourisseau qui a fait ça dans le deuxième numéro, d'inventer une langue pour la Christ, avec des nouveaux mots qui sont très sonores, voilà, que je vous invite
mais
à...
L'idée d'inviter Sophie Loiseau, oui, moi j'y avais pensé en tout cas.
On y a pensé. On est sur le coup.
Mais elle est, en ce moment, elle n'est pas.
Oui.
Elle craignait de disparaître, donc...
Mais moi, je voulais revenir sur cette idée-là. Effectivement, en fait, l'éco-poésie, ça, comme je disais au début, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout une déclaration d'intention. En tout cas, pour le moment, je pense que ça va se structurer. Puis ensuite, on verra différentes chapelles, j'imagine, avec chacune leur approche. Bon, il y a quand même un deuxième point qui est, c'est pas parce qu'on cite un poulpe dans un poème que c'est de l'éco-poésie. Je pense que c'est quand même une différence radicale. Et je pense qu'on peut faire de l'éco-poésie poulpienne sans citer de poulpe. Mais la question, voilà, c'est maintenant qu'on a dit ça, effectivement, c'est de la rhétorique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, c'est vrai que je m'oppose un petit peu à une poésie qui veut parler de l'environnement en décrivant un poème sur un oiseau et en disant, bah voilà, c'est un poème sur l'écologie parce que je parle d'un oiseau qui s'envole, etc. Je suis pas sûr que ce soit ça la bonne solution. Je pense que c'est un premier degré d'approche de cette notion-là ou de ces questionnements-là qui demande à être dépassé à un endroit ou à un autre. Parce que la question de l'éco-poésie, c'est une question de si là je devais la définir en telle que je la conçois à l'endroit où je suis, c'est une question de réinvention du lien de notre présence à un environnement qui est multiple, mais qui en même temps n'existe pas que comme multitude. C'est-à-dire que pour la fourmi existe aussi, elle, dans son référentiel par rapport à un environnement dont nous faisons partie, vous comprenez ? C'est ce que je veux dire. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à parler de ce lien-là, à réinventer ce lien-là? Et pour ça, tout simplement, faut inventer de la langue. C'est-à-dire qu'il faut se mettre avec ses outils sur l'atelier, dans l'usine de langue de la tête, et commencer à travailler pour inventer une nouvelle langue. Donc en fait, c'est extrêmement exigeant. Et c'est très très loin de simplement dire, là je vois une fauvette des prés, la fauvette des prés est jolie, elle s'envole, je me sens comme elle, paf, éco-poésie. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas cet effort-là. Et donc, c'est à partir du moment où il y a intention, où il y a effort, et où il y a travail, et ensuite, on peut en discuter, c'est à plusieurs degrés, qu'il y a éventuellement éco-poésie. Mais encore une fois, ce n'est pas un label. Enfin, on s'en fiche de dire d'un poème qu'il est éco-poétique ou pas. Mais moi, c'est ça que je cherche. Voilà. Et ça disqualifie Jacoté, par exemple. Jacoté s'en fout. Il travaille la langue, mais pas du tout dans cette intentionnalité-là. Bon... non, mais après, oui, on peut discuter.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il travaille la langue exclusivement, puisqu'il travaille son verger.
Oui.
Puisque, non, mais c'est littéralement inséparable. Littéralement inséparable.
Oui, non, mais...
Donc, voilà, c'est... Mais bon.
Oui.
Alors, vous parlez de l'environnement, de l'éco-poésie, on entend écologie. Est-ce que ces mots portent maintenant d'inquiétude, d'angoisse, de lourd? Et pourtant, quand on entend fun, on entend éventuellement fun. Vos sous-titres sont aussi travail du côté de l'humour. Et vous avez parlé de travail, d'effort, qui sont des choses coûteuses. Et il y a cet humour, cette légèreté, ce fun. Parlez-nous et de la joie.
Bon, C'est assez... Vas-y, hein, je t'en prie.
Oui, mais... moi, je prends énormément de plaisir à faire ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, cette dimension-là, évidemment, qu'elle est présente. Enfin, c'est comme ça que j'ai conçu la poésie ou l'entrée de la poésie dans ma vie. Donc, par cette envie de prendre plaisir à écrire là où avant, moi, personnellement, j'étais bloqué. Mais bon, ça, c'est une question très personnelle. Mais je pense qu'effectivement, même dans... C'est pour ça que le prolongement de la revue par l'idée même, par exemple, d'une fête poétique, c'est-à-dire que les événements qu'on organise, il y a des lectures performées sur de la musique, etc. Il y a toujours une dimension de festive au sens...
moi, j'ai envie de dire carnavalesque.
Enfin, oui, aussi.
Un espèce de joyeux bordel, en fait. Je pense que c'est ce vers quoi on va de plus en plus. Parce qu'on fait quand même tout avec nos petits bras et organiser un carnaval à quatre, c'est pas forcément la chose la plus facile du monde. Mais c'est un esprit, c'est vraiment l'esprit, c'est encore de la rhétorique, hein, et c'est mon côté lettreux, peut-être, qui prend le dessus, là. Mais le côté rabelais, quoi. Enfin. Il faut que ce soit un carnaval gigantesque qui renverse la table et de tel que relu par Bakhtine et qui est une force en fait contre toutes les formes d'oppression une fois qu'elle est bien qu'elle est mise en place. Oui, non mais oui, tout
on
à fait.
On essaie de l'être en tout cas.
Partager à quatre quand on vous écoute en parler, même déclamer, on sent cette force
joie.
De joyeux
de
joyeuses équipes. Qui a envie de remonter vers le haut et de constamment évoluer, mais ensemble, dans la joie, en fait.
Oui, oui, oui.
Enfin, moi, c'est ce que je ressens.
Bah, merci beaucoup.
Je ne connaissais pas votre travail, donc voilà.
Merci beaucoup.
Je suis fan de poésie, j'ai commencé à écrire en 1974, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui.
et vous continuez, j'espère.
Et je continue.
Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, je pense au bœuf monstre qui collecte ses textes par de la scène ouverte. Je n'y suis pas encore allé.
Le bœuf monstre.
Vérifier si c'est carnavalesque.
Pourtant, c'est dans le 13e.
Ouais, ouais. Mais je pense que le bœuf monstre, Mounia, ils sont animés par la même ambition de mettre 5 instruments sur scène, 4 personnes qui gueulent des trucs et lire des textes toujours nouveaux et que ça prenne toutes les formes. Et que ça ne soit pas figé à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a un peu la même, pas la même approche, mais la même envie. Ouais.
On s'intègre dans ce mouvement, en tout cas contemporain, qui a peut-être 5-10 ans, de nouveaux collectifs, nouvelles revues, collectifs de poètes et poétesses.
On n'est pas forcément originaux.
on est un petit grain de sable en plus dans cette grande plage en fait de collectifs et de noms qui ont envie de s'amuser, de faire des choses, d'avoir un propos.
On pense à Manche Témo, notamment, qui fait beaucoup ça depuis des années, qui a énormément participé à diffuser la poésie.
Il y a des liens entre tous ces collectifs, d'ailleurs, par l'organisation de...
d'événements communs, de services rendus.
Oui.
C'est... Ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à faire de la poésie une société, en quelque sorte, aussi. C'est-à-dire pas seulement une quête individuelle de la langue, la recherche sur la langue, mais aussi un endroit ou un espace dans lequel on peut évoluer ensemble, avec tout ce que ça comporte de frustration, parfois. Mais je sais pas, on a envie, quoi. On a envie de créer une forme poétique qui soit... peut-être totale, et ça, on peut le faire qu'à plusieurs. C'est pas possible tout seul. Nous, on travaille beaucoup avec de la vidéo. Bah, si on travaillait pas avec Zora ou avec d'autres vidéastes, on pourrait pas avoir de la vidéo aussi intéressante que ce qu'on a pendant nos événements. Voilà, et donc on a besoin de faire alliance, de faire communauté pour que ça fonctionne.
En tout cas, c'est aussi dépasser la seule expression de l'écrit.
Oui.
Certes, l'écrit est fondamental et pivot, mais il est aussi porte... Oui. Il est aussi porté par l'oralité, il est aussi porté par la corporalité, puisqu'en fait, quand on parle de performance, enfin, moi je le vis comme
ça.
Je le vis. Parce que... Non, mais c'est quelque chose déjà d'ancien, mais en tout cas, il y a faire des lectures nues, par exemple. Mais c'était ce que sous-entendait Dorsen.
C'est tellement 2024.
Hein. C'est très, très 2024. Non, mais c'est un spécialiste de la lecture naturiste. Oui. Moi, j'ai jamais fait ça. J'avoue que j'ai pas osé encore.
Mais en tout cas, ça se voit peut-être quand on lit à deux ou à trois, mais il y a une façon de bouger au moment de lire, et c'est aussi l'expression du corps dit aussi de ce qu'est cette poésie, je pense. Oui. Là, en fait, qui n'est pas qu'une poésie du stylo et de la feuille ou de l'écran d'ordinateur aujourd'hui. C'est quand même plus représentatif de comment on écrit, mais
oui. Il y a quelque chose qui sort de la page. Enfin, c'est vraiment cette revue et peut-être pas notre conception plus large, ouais. Et c'est une question de dispositif. C'est-à-dire que certes, il y a la revue et sur laquelle on passe du temps, etc. Il y a aussi l'événement à côté. Il y a la vidéo. On veut faire des enregistrements peut-être un jour. Enfin, voilà, on veut développer un écosystème en fait, tout simplement, dans lequel la revue est peut-être centrale. L'écrit et la poésie sont absolument essentielles, pièces maîtresses, mais ne sont pas seules. Et je pense qu'on n'a pas envie que ça fonctionne seul. Si on me disait on fait juste cette revue, je trouverais ça dommage, je pense.
C'est un partage théâtral.
Oui, en quelque sorte.
Voilà. Un partage théâtral.
Oui,
moi,
c'est ça.
C'est comme ça que, voilà, qu'on le ressent.
Hein. Où le texte est un
morceau. Parce qu'on parlait de musique, quoi. On peut associer la musique, les mots, parce qu'en fait, quand on reçoit les mots, bon, ça peut vous faire du mal, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Rien que les syllabes, en fait. Il y a un effet... Il y a un effet bœuf,
thérapeutique.
On va dire, voilà, thérapeutique, voilà. Tout ce qu'on peut imaginer. Hein, voilà.
Mais alors, merci d'autant plus d'être venu dans ce contexte qui doit vous paraître alors bien sérieux. Bien.
Ah, oh bah non, bien. C'est toujours la fête.
C'est très confortable.
Là où est Florian, c'est la fête. Hein. De toute façon, c'est permanent.
C'était vraiment très, très beau, très agréable de notre côté, du vôtre aussi, oui, j'espère.
J'espère qu'on n'a pas trop... on n'a pas parlé de Moby Dick encore, mais on en parlera peut-être pour une autre...
C'est de dire des choses, en tout cas.
Et c'était réussi, je pense. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions?
Non, moi j'ai une question à propos du dernier texte que vous avez lu. Je ne l'ai pas retrouvé dans...
Il est tout à la fin.
Il est tout à la fin du deuxième numéro.
Voilà, ce n'est pas celui que j'ai acheté.
Si, il est... Non, c'est l'avant-dernier, pardon.
Ah oui? Ah oui, parce qu'il y a le texte de Marianne Cazaras.
Il n'y a pas de numérotation de page, donc on ne vous facilite pas la tâche.
Celui-ci?
Oui, tout à fait.
Je ne la retrouve plus. Ah voilà. Oui, et puis il n'y a pas vraiment de titre. Voilà, c'est ça.
Mais en tout cas, c'était un très beau numéro.
Ben, merci beaucoup.
Merci.
Bravo.
Et bravo merci vraiment à tous les artistes et tous les revuistes aussi qui travaillent.
Oui, parce qu'en fait,
qui font un travail de. En fait, c'est là qu'on s'en rend compte, quoi. Nous, on a publié deux numéros, donc on est des enfants. Mais c'est un monde dans lequel il y a un travail de fourmis. Il y a des fourmilières gigantesques, énormes. Énorme, et des gens qui passent des années, des centaines d'heures chaque année à faire ça, et pour des petits tirages, même à 200, 300, et voilà, c'est ça qui fait vivre la poésie aussi, cette myriade de travailleurs et de travailleuses du texte, comme disait je ne sais plus qui.
Et d'illustration,
tout à fait.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être parmi nous ce soir, donc dans quelques semaines, on vous retrouvera sur la toile. Grâce au bon soin de l'équipe audiovisuelle de FMSH, que nous remercions Véronique avec nous ce soir, là-bas, quelque part. Dans un mois à peu près, le 10 avril, si je ne me trompe pas, nous organisons une soirée autour de Castoriadis. Vous êtes tous invités, donc un changement de registre, mais j'espère que ce sera au moins aussi agréable. Merci à vous et bonne soirée.
Merci.
Merci beaucoup.